coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Alors, je ne vous ai pas fait de blague, de ne pas être là aujourd'hui, et je suis ravie d'être avec vous. Alors, nous sommes tous au courant de la tradition depuis toujours, et pourtant, on a tendance à l'oublier chaque année, et une fois sur deux, ça nous tombe dessus. Alors, cette année, ne l'oubliez pas, nous sommes le 1er avril, si vous vous êtes fait prendre l'année dernière. Eh bien, vengez-vous! Il est tôt et vous avez donc toute la journée pour le faire. Journée que je vous souhaite excellente et bonjour à vous!
Par un jour d'avril, qu'elle se promène en ville, sereinement, au milieu des bâtiments, au milieu des plans et des aménagements, des chantiers et des terrains urbains. C'est un homme habile, au front court, à la front facile, un sanguin qui depuis tôt ce matin, depuis tôt dès son lever, a décidé que sa vie devait changer demain. Oh, c'est le vide dans cette vie. On est avide de changement, de changement. Il est là, là bien à l'heure où le soleil demeure un instant entre deux immeubles récents. Entre deux, il s'est installé au comptoir et il boit un café noir dans un rayon de soleil. Elle regarde la ville du 12e étage. Elle a une vue facile. Elle embrasse d'un coup d'œil les environs. toute l'agglomération, mais un rayon de soleil la belle dehors. Elle sort, oh c'est le vide dans cette ville. On est d'avide de changement, de changement. Devant, tout devant, une vitrine attractive. Il reprend sa monnaie d'un geste lent, puis d'un pas pressé perdu dans ses pensées. Il la croise en magasin de jouets. Oh, c'est le vide dans cette ville.
Combo sur Radio Plus. Alors, nous parlerons méthanisation dans Saltan sur la planète avec Jean-Louis Ouatté. C'est une solution stratégique aux énergies fossiles et pourtant beaucoup refusent l'installation d'unités de méthanisation. Alors, est-ce justifié? Et puis, Bertrand Trinel nous donnera ensuite quelques astuces pour jardiner autrement sans produits phytosanitaires et nous respecterons les vers de terre et nous planterons des épinards. Et puis, à nouveau, nous aurons avec nous Marguerite Leblanc. Alors, vous vous souvenez, il y a 15 jours, elle nous racontait son vécu lors de sa participation à Koh-Lanta il y a 2 ans. En fait, le réel motif de ce lancement dans cette aventure de l'extrême, c'était pour soutenir l'association Accueillir la fragilité. Et Marguerite nous présentera aujourd'hui cette association.
Pas s'il faudrait, moi je n'ai pas les mots. Qui de nous deux, le premier, qui osera le saut? Faut-il encore rester amis sans mourir en secret? Chaque nuit, à quoi ça tient nos amours? Fragiles, 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 tellement. On a le cœur comme au bout d'un fil, un fil, fragile infiniment. N'aimer qu'un jour ou jamais, lequel entre deux mots? Attendre encore, tout risquer, comme on se jette à l'eau. À qui la faute après? À qui tout le poids des regrets? Ça tient nos amours, fragiles, 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 tellement. On a le cœur comme au bout d'un fil, un fil, un fil. quoi ça tient nos amours fragiles, fragiles, fragiles. Tellement on a le cœur comme au bout d'un fil, un fil fragile infiniment. On parle encore d'amitié facile, facile, facile.
De la Moga sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps, ces 10 dernières années, 6457 catastrophes climatiques ont été recensées dans le monde par le CRED, un organisme de l'ONU, deux fois plus que pendant la période 1984-94. Au total, 205 millions de personnes sont affectées chaque année. Alors, tout de suite, on va retrouver Jean-Louis Ouatté.
Sale dans sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent.
La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
J'ai eu peur, Jean-Louis.
Oui.
Oui, parce que ça a fait des gros boum boum, des gros bon. Il faut dire qu'on travaille pas dans le même studio que d'habitude. Alors voilà, il risque d'y avoir des petits problèmes. Alors Jean-Louis.
C'est le 1er avril, hein.
Oui, oui, c'est ça. Et la grosse farce, c'est ça. Des unités de méthanisation de toute taille s'installent sur le territoire français. Elles représentent une véritable opportunité, en particulier pour les agriculteurs et les collectivités, en leur permettant de produire du biogaz pour leur propre consommation ou pour le vendre, mais aussi de trouver une solution pour les déchets organiques qui sont transformés en engrais naturels. Mais allez savoir pourquoi, de nombreux riverains aidés par certaines associations s'opposent à ces installations. Alors la presse en a fait d'ailleurs beaucoup état actuellement, et essayons donc d'y voir plus clair avec vous, puisque vous êtes président de l'ETREM Nature. D'abord, je voudrais quand même vous dire bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, on pourrait peut-être rappeler très vite, Jean-Louis, ce qu'est la méthanisation.
Alors, la méthanisation, c'est un procédé qui est très utilisé dans l'agriculture, mais aussi dans le traitement des biodéchets, celui des boues d'épuration urbaine et puis de certains effluents industriels. Donc, la méthanisation est parfois appelée digestion anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc c'est une technologie qui est basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique en conditions contrôlées et donc en l'absence d'oxygène, donc en milieu ce qu'on appelle anaérobie. Alors contrairement au compostage qui lui est une réaction aérobie, donc en présence d'oxygène. Donc la dégradation par anaérobie, ça provoque un produit humide qui est riche en matière organique partiellement stabilisée, qui est appelé le digestat. Hein, il est généralement envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compostage. Et puis, deuxième produit qui est produit par la méthanisation, c'est du biogaz. C'est un mélange gazeux qui est saturé en eau à la sortie du digesteur et qui est composé d'environ 50% à 70% de méthane, de 20 à 50% de gaz carbonique. Et puis de quelques gaz traces, hein, NH3, etc. Le biogaz a un pouvoir donc calorique, hein. Et puis c'est une énergie qui est renouvelable, qui peut être utilisée sous forme combustive pour la production d'électricité, de chaleur, de production d'un carburant ou d'injection dans un réseau de gaz naturel après épuration. Donc voilà un petit peu le résumé de la méthanisation. Donc deux produits, hein, le digestat et puis le biogaz.
Donc on peut quand même en déduire, Jean-Louis, que cette méthode de gestion des déchets présente quand même beaucoup d'avantages.
Alors elle présente des avantages, mais bon, faut dire aussi quelques inconvénients, hein. Donc faut quand même être prudent. Puisque les avantages, bien sûr, c'est une double valorisation de la matière organique et de l'énergie, hein, c'est l'intérêt de la méthanisation par rapport aux autres filières. Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par les autres filières. Une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l'usage d'énergie fossile ou d'engrais chimiques. Et puis un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides qui sont pas compostables en l'état. Et puis une limitation des émissions d'odeur. Alors limitation parce que ça peut être, c'est un problème, on en parlera après, du fait du digesteur hermétique et de bâtiments clos qui sont équipés de traitements d'air. Alors le choix de la méthanisation nécessite cependant de prendre soin à certains points lors de la conception du projet. S'assurer que les déchets qui vont entrer prévus seront disponibles sur quand même une durée plus longue. Vérifier la valorisation énergétique possible du biogaz. Et puis, faut que ce soit en complémentarité avec soit l'incinération, soit le stockage en centre de stockage de déchets non dangereux, parce que tout ne peut pas être utilisé, bien entendu, en méthanisation. Donc une complémentarité aussi avec le compostage, par exemple pour les déchets ligneux qui sont pas adaptés à la méthanisation, hein, ou pour justement, on en parlait, finaliser la maturation du digesteur. Et donc, les déchets méthanisés sont d'origine soit agricole, hein, déjection animale, résidus de récolte, les eaux, par exemple, de salles de traite pour les animaux. Mmh. Ça peut être aussi utilisé les déchets d'origine agro-industrielle, hein, les abattoirs, les caves vinicoles, les laiteries, fromageries. Et puis, des origines municipales, les tontes de gazon. La fraction qui est fermenticible, c'est-à-dire que la fraction qui peut être fermentée des ordures ménagères, alors qui donc doit être triée à la source, les boues et les graisses de stations d'épuration. Voilà un petit peu, c'est l'origine des déchets qui sont méthanisables.
Alors, justement, actuellement, on parle beaucoup du climat. On sait que les énergies renouvelables devront avoir un essor important. On a déjà parlé de la méthanisation dans cette émission, notamment avec Robert Trouvillier de Nord Nature. Alors, tous ceux qui prennent l'environnement à cœur sont largement pour cette gestion des déchets qui permet de lutter contre le changement climatique. Et d'ailleurs, c'est un procédé quand même très développé chez nos voisins européens, comme en Allemagne, en Italie ou au Danemark. Alors justement, pourquoi la France traîne-t-elle des pieds, je dirais presque comme d'habitude, mais vous avez l'air de dire que ce n'est quand même pas la chose parfaite, quoi. Ce n'est quand même pas une gestion parfaite.
Non, parce que gare à toute comparaison avec les modèles de méthanisation d'autres pays, hein, comme l'Allemagne en particulier, il faut savoir qu'outre-Rhin, la filière s'est développée sur des cultures énergétiques comme les biocarburants de première génération. Donc ce qui va soulever de sérieux problèmes climatiques et de changements d'affectation des sols. Hein. En Allemagne, par exemple, il existe une production de maïs ou de soja qui est spécialement dédiée au biométhane, donc qui peut représenter jusqu'à 15% des approvisionnements. Donc on a une dérive, le problème c'est la dérive de cette production, hein. Donc, faut être très très vigilant sur les comparaisons. Et puis, il faut savoir que l'investissement de départ est très lourd, hein. Donc, ça peut aller de 300 000 euros pour les plus petits projets jusqu'à 15 millions d'euros pour les projets collectifs. Et donc, c'est vrai qu'en France, les banques sont frileuses pour accorder des prêts pour les installations de méthanisation. Et puis bon, ça n'est pas aussi bon au niveau de l'agriculture. Il faut éviter, bien entendu, il faut éviter qu'il y ait une dérive au niveau des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils deviennent non plus des agriculteurs, mais des énergiculteurs. Hein. La méthanisation doit être un complément de revenu, par exemple pour les, là on parle bien des agriculteurs, hein, un complément de revenu pour les exploitations, pour la valorisation des déchets et des résidus, mais elle ne doit pas venir se substituer à l'activité agricole. Or ça c'est le danger. Hein. Et puis aussi la méthanisation, elle ne doit pas ralentir la démarche de prévention des déchets organiques. Hein. Le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, donc il faut être vigilant là-dessus. Alors c'est un procédé qui a ses avantages, mais faire attention aussi quand même
qu'il n'y ait pas de dérive. Tout à fait. Alors, Jean-Louis, non seulement, bon, donc justement, on vient de le dire, la France traîne les pieds, mais en plus, la méthanisation et donc l'installation des unités spécifiques fait polémique et rencontre de nombreux opposants. Alors, il y a même des collectifs qui se forment. Justement, donc, leurs arguments sont-ils valables ou alors restent-ils discutables?
Bah, c'est-à-dire qu'il faut... il faut quand même faire attention parce que il y a quand même certains problèmes d'installation qui sont pas tout à fait bien faites, et donc il y a quand même des problèmes d'odeur qui sont pas négligeables, et donc il faut être vigilant, et donc il y a des odeurs nauséabondes pour certaines productions qui sont quand même assez gênantes et qui sont le signe qu'il y a des gaz, parce que s'il y a odeur, c'est qu'il y a des gaz qui s'échappent des installations, et donc et les gaz en question sont loin d'être anodins, hein. Certes, il y a le méthane, mais il y a aussi de l'ammoniac, des sulfures d'hydrogène. Et donc, c'est des éléments qui pourraient quand même rendre la méthanisation moins vertueuse qu'annoncée en matière de gaz à effet de serre. Hein. Faut savoir que le méthane, c'est un gaz qui est 20 fois plus dangereux pour l'effet de serre que le gaz carbonique. Donc, il y a lieu d'avoir des installations qui sont vraiment au top. Hein.
Et puis...
Et donc, selon les estimations, il faut savoir que les fuites varient entre 0 et 10% de la quantité de méthane produite. Bon, on n'a pas d'évaluation exacte pour le moment. Après, il y a d'autres gaz aussi qui sont produits. C'est pour ça que, bon, je ne laisse pas un tableau noir, hein, mais il y a d'autres gaz, il faut être vigilant, notamment le sulfure d'hydrogène, qui est non seulement un gaz toxique, mais qui est aussi très, très corrosif. Donc, il peut endommager les tubulures du méthaniseur, et produire des fuites de méthane. Donc, il faut être très vigilant sur les installations. Savoir aussi que la maintenance est assez lourde. Hein. Mmh. Il y a une maintenance assez lourde, et donc c'est aussi à prendre en compte dans l'installation de la méthanisation.
Et alors justement, un des arguments, je vois par exemple comme Freddy Garcia, qui est membre du collectif National Vigilance Méthanisation, dit que moins 40 degrés, ça ne suffit pas pour éliminer les nitrates, les pesticides et les métaux lourds.
Je pense non, que alors il y a aussi le problème du digestat, hein, qui n'est pas négligeable, puisque les déchets organiques qui sont utilisés dans la méthanisation sont vraiment d'origine variée. Bon, il peut s'agir de déjections d'animaux ou de déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Et une fois le processus achevé de méthanisation, donc ce fameux digestat peut ensuite être répandu sur les parcelles agricoles et servir d'engrais. Or, il est loin d'être sans danger pour les sols. Hein. Ce qu'on appelle l'hygiénisation n'est pas suffisante, c'est un mélange qui peut receler des bactéries qui sont potentiellement résistantes et qui vont ensuite s'infiltrer dans les sols, voire les nappes phréatiques. Donc il faut être très très vigilant, il faut que le processus soit hyper bien contrôlé. Et donc, bon, faire attention, je ne vais pas dire que
tout est noir,
pas bien, mais faire très très attention, être très vigilant. Et le problème quand même majeur, c'est le problème de la dérive au niveau agricole.
Alors, mais Jean-Louis, est-ce qu'il vaut quand même pas mieux avoir près de chez soi une unité de méthanisation plutôt qu'une usine à incinération ou une décharge publique? Les risques sont
moindres. C'est vrai que là, je ne vais pas me prononcer, mais c'est vrai que a priori, on pourrait croire que... Mais bon, je ne vais pas me prononcer, là, je vais dire que je prends le joker, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple, c'est pas simple à répondre, une question qui n'est pas facile à répondre.
En tout cas, encore une fois, Jean-Louis, permettez-moi de le dire, hein, tout le monde proteste contre le changement climatique, contre les prix des énergies fossiles, contre le nucléaire, on applique toujours l'État qui ne fait pas, mais lorsqu'on veut faire quelque chose, tout le monde dit oui, à condition que ce soit un petit peu quand même chez le voisin, hein. C'est bien français ça quand même, hein.
Ah bah oui, c'est sûr que... Mais je pense que le débat mérite d'exister, parce que c'est à partir de là où on arrive à avoir quand même des installations qui sont quand même au top. Je pense qu'il y a quand même un droit de précaution qui me paraît quand même fondamental. Je pense que, bon, on critique souvent la France, mais quand on regarde un petit peu d'autres pays qui sont quand même moins précautionneux que le nôtre, moi je prends par exemple le cas des produits phytosanitaires. Seule la France a pris la décision d'interdire la vente dans les magasins de...
Oui, quoi qu'encore là, il y a encore beaucoup à dire.
Hein, ah, il y a beaucoup à dire, mais bon...
Le Roundup est actuellement... je suis allée dans un magasin, le Roundup est à nouveau, et il y a quelqu'un qui le déplorait dans la Voie du Nord aussi, le Roundup est à nouveau sur les étals. Hein, donc, il y a encore beaucoup
sur les étals avec des... Bon, c'est vrai qu'avec, comment ça s'appelle, je sais plus le
oui,
nom de...
l'acide...
Ouais, l'acide pélargonique, c'est ça?
Oui.
Et donc, c'est sûr que les fabricants n'ont pas attendu les bras croisés. Hein,
oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière.
Donc c'est certain que la bataille est loin d'être gagnée.
Tout à fait.
Mais quand même, il faut quand même être vigilant sur les projets. On critique beaucoup, moi il y a un sujet qui me fait quand même peur, c'est qu'on critique beaucoup la réglementation. Mais moi je dis attention, la mise sur le marché de certains produits, le lancement de certaines technologies mérite réflexion.
Tout à fait.
Donc voilà.
Eh bien Jean-Louis Ouatté, merci. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.
Bonne semaine, merci.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
J'ai enlevé de rubrique là parce que c'est... Jamais trop tard pour bien faire, la preuve tout de suite avec Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dis-le.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors en avril, ne te découvre pas d'un fil, ce qui veut dire que le froid est encore là. Et puis il y a ce dicton aussi, pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie remplit granges et fournit. Eh bien, nous voilà contents d'avoir de la pluie, si on en a cette semaine, n'est-ce pas Bertrand?
Oui, tout à fait. Comme je le dis souvent, l'eau et la pluie, c'est la vie. Donc il nous faut de l'eau pour vivre, et les plantes ont besoin également d'eau pour vivre. Alors moi j'attends la pluie avec impatience, ça fait quand même 15 jours qu'il n'y a pas tombé une seule goutte.
C'est vrai qu'on est obligé d'arroser.
Oui, tout à fait, il va falloir qu'il pleuve là maintenant.
Alors j'ai pensé à vous cette semaine Bertrand, car le journal La Voix du Nord a fait un excellent article sur notre sol qui abrite une précieuse microfaune, et nous avons eu souvent l'occasion d'en parler ensemble sur cette antenne, et le journal reprenait les termes de Coralie Bureau, docteur en écologie. Le retournement du sol par la bêche ou le labour du tracteur est le principal ennemi d'un sol sain et vivant, de son bon équilibre naturel qui sait nourrir les plantes par leurs racines. Alors surtout ne pas retourner le sol du jardin, n'est-ce pas Bertrand ?
Alors non, surtout pas. Le sol doit être aéré, c'est une évidence. Un sol trop dur et trop tassé ne peut plus rien produire, ça c'est évident. Mais aérer le sol ne veut pas dire le retourner. Car dans la première couche des 10 à 15 premiers centimètres, il y a toute une vie, toute une faune de micro-organismes, de bactéries, de champignons, de protozoaires, etc., qui ont besoin d'oxygène. Par contre, un peu plus bas, dans la seconde couche, vivent d'autres micro-organismes qui, eux, vivent sans oxygène. Donc, retourner le sol, c'est chambouler tout le milieu où vit ce petit monde, et c'est surtout les condamner à mort. Donc, sans micro-organismes dans le sol, notre sol est mort, quoi. Et c'est ce qui se passe un peu dans les champs, à cause des pesticides, à cause des labours profonds, à cause des tassements de terre et tout ça. Donc, le sol meurt carrément. Donc, on a vraiment besoin d'aérer le sol et pas de retourner.
Et puis, Bertrand, lorsqu'on a un sol bien équilibré et sans produits phytosanitaires, il y a des vers de terre qui font le travail de labour à notre place, car ils sont courageux.
Effectivement. Ils sont même nombreux quand on a un bon sol. Et puis alors, effectivement, mais pour donner un complément à la question précédente, si on ne retourne pas le sol, il faut néanmoins l'aérer. Donc on peut le faire en utilisant la grelinette ou l'actibèche qui aère en profondeur le sol sans retourner. On enfonce les dents dans le sol, on pousse en avant, on tire en arrière, on soulève et ainsi de suite. Et ça marche très bien. Mais les vers de terre sont également nos alliés. Ils retournent la terre et l'air. Hein. Certains peuvent même descendre jusqu'à 4 mètres, c'est quand même important. Donc, ils décomposent toute la matière organique, les déchets, etc., qui sont déjà un peu décomposés par les micro-organismes, hein, en symbiose forcément avec les micro-organismes. Et si on apporte du compost et puis de la matière organique dans notre jardin, on contribue à nourrir tout ce petit monde, donc à faire proliférer les vers de terre qui, en creusant leurs nombreuses galeries, vont aérer toute la couche superficielle, mais également en profondeur. Donc, c'est vrai, c'est franchement très encourageant d'avoir des vers de terre pour limiter notre travail et pour que les plantes poussent mieux.
Alors, justement, champion dans notre assiette, il est notre légume du mois, Bertrand, et vive l'épinard. Alors, la semaine dernière, vous nous avez donné la différence entre épinard et tétragone. Cette semaine, pouvez-vous nous dire comment le planter, cet épinard ?
Alors, je ne vais pas dire le planter, parce qu'en général, les épinards sont plutôt semés. Et ce sont des plantes qui vont épuiser quand même le sol. Hein. Ce sont des plantes voraces, donc il leur faut donner une bonne fumure, une fumure copieuse auparavant. Et on les sème principalement au printemps, de février en mai, ou encore à l'automne, d'août à septembre. On enterre les graines à environ 2 cm de profondeur. Hein. Donc les semis, on peut les faire en ligne. Les lignes sont espacées d'environ 40 cm. Et après la levée, on va éclaircir sur la ligne à 15-20 cm. Parce que chaque pied a besoin de bien s'épanouir. Il ne faut jamais laisser des plantes, même quand on a un petit jardin, un petit terrain, il ne faut jamais trop serrer les plantes. C'est au détriment de l'épanouissement de la plante et puis du rendement. Donc, on va commencer à cueillir les premières feuilles bien tendres lorsqu'elles atteignent une bonne dizaine de centimètres, je dirais. Et puis après, on continuera au fur et à mesure la cueillette. Hein. Voilà. C'est un peu la culture, c'est un peu ça. Et puis attention, c'est très, très difficile d'obtenir des beaux épinards en période estivale. Hein. L'été, c'est pas la peine d'en semer, vous aurez du mal à en avoir. Il faut faire trop chaud et ça va pas. Voilà. C'est pour ça le printemps et l'automne.
Alors, Bertrand, saviez-vous que, justement, en parlant d'épinards, saviez-vous que l'épinard pouvait aussi avoir sa place dans la machine à laver ? Un verre d'eau de la cuisson de ses petites feuilles vertes dans le bac de rinçage et le noir de notre linge est ravivé comme par miracle.
Alors ça, je ne connaissais pas l'astuce du tout, hein, parce que pour raviver le linge en couleur noire, je sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de plantes tinctoriales, mais l'épinard, je ne savais pas.
Eh bien voilà. Alors justement, Bertrand, je vous ai donné ma petite astuce. Alors restons bio en toutes circonstances, n'est-ce pas ? Et vous allez vous aussi m'en donner une pour le jardinage, je suppose.
Ah ben, je vais vous en donner une, par exemple, une recette naturelle pour lutter contre l'oïdium. Alors, l'oïdium, c'est une maladie cryptogamique hein, qui est causée par des champignons qui parasitent la plante, hein, qui parasitent certaines plantes. Donc, il prolifère surtout par temps relativement sec. Et ça se traduit par l'apparition d'un feutrage blanc sur les feuilles. Alors, les feuilles se déforment, se boursouflent, tout ça. Donc, c'est très mauvais pour les plantes. Donc là, c'est très simple. On mélange 10 à 20% de lait à de l'eau. Et on pulvérise 2-3 fois par semaine. Donc cette pulvérisation va également renforcer les défenses immunitaires des plantes, donc c'est très bien. Et puis, en même temps, ce lait, là, du lait quasiment pur, si vous avez des lapins qui viennent dans votre jardin, vous pulvérisez ça sur vos légumes, du lait sur vos légumes, et les lapins n'apprécient pas du tout.
Ah, le lapin n'aime pas le lait?
Non, parce que le lait va fermenter. Alors, le lait qu'on va utiliser pour le yidjan, ça peut être du lait écrémé ou du lait non écrémé, mais le lait non écrémé, il y a de la matière grasse dessus, tout ça, qui fermente et qui sent un peu, c'est ce que le lapin n'aime pas. Donc, pour les yidjan, on peut mettre du lait écrémé, et pour les lapins, on met du lait complet.
D'accord. Écoutez, vous en voulez aux limaces, cette semaine, ce sont les lapins.
Non, j'en veux pas, je veux qu'ils aillent ailleurs que dans le potager.
D'accord. Alors, avant de nous séparer, Bertrand, parlons de Leslie Garcia. C'est une paysagiste qui conçoit des espaces verts, mais qui a surtout l'habitude de semer et planter partout où elle passe, tous azimuts. Hein. Et elle vient d'écrire un ouvrage qui s'intitule « Végétaliser les mini-espaces urbains ». Alors, elle montre dans ce livre que chacun peut avoir son petit coin de nature, et ce, à peu de frais. C'est vrai, Bertrand, au pied d'une façade ou sur un balcon, on peut toujours agrémenter de verts, c'est vrai.
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de végétaliser le plus possible les villes. Et c'est vrai que de plus en plus de municipalités vont dédier aussi certains espaces aux riverains pour y planter des légumes et des fleurs. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour, hein, pour végétaliser les trottoirs, les murs, les clôtures, les friches, etc. Il y a plein de choses qui se végétalisent actuellement. Et chacun d'entre nous, en ville, parce que la campagne, on le fait quand même déjà d'avance, mais chacun d'entre nous en ville peut participer pour fleurir son balcon, son mur, son trottoir. Tout ça contribue peu à peu à recréer la biodiversité et peut-être à sauver certaines espèces d'insectes qui sont menacées. Mmh. En plus, ça crée une synergie dans le quartier. Les gens commencent à se reparler, à échanger, à partager leur expérience. Ça crée des liens sociaux intergénérationnels. Et puis, c'est un mieux vivre ensemble. Donc, il y a également des associations qui lancent des projets comme l'association Incroyable Comestible qui plante des bacs en ville où chacun peut désherber et se servir en légumes. Moi, je pense que c'est très important pour tout le monde. Et si tout le monde s'y mettait, franchement, ce serait formidable quand même d'avoir de la verdure un peu partout en ville, des fleurs, des plantes, des légumes. Il y a une ville en Angleterre qui le fait. C'est vraiment très intéressant.
Il y a même des associations qui plantaient autour des arbres, qui plantaient des légumes. Et on en a déjà parlé ici dans Saltan sur la planète. Et tout le monde vient se servir. C'est pas mal.
Ah ouais, c'est comme l'association incroyable comestible, c'est ce qu'ils font. Et franchement, c'est bien.
Alors, on rappelle, Bertrand, justement, que votre association accueillera les enfants qui veulent s'adonner au jardinage, mais surtout prendre l'air et faire connaissance avec les différents fruits et légumes, mais aussi les insectes. Bref, la nature, qui veulent connaître la nature, tout simplement. Et ça, c'est à partir du 6 avril, les samedis matins, de 10h à 12h, sous condition d'adhésion à l'association.
Oui, tout à fait. Donc, les cours de jardinage pour enfants recommencent le samedi 6 avril, de 10h à 12h, au Jardin de l'Ermite, à Vesquerque. Hein. Alors, c'est également un des objectifs de PGH, c'est rééduquer les enfants à la nature. Et franchement, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Franchement, on est très contents, très satisfaits du résultat. Les enfants se réapproprient quand même le jardin, donc c'est bien.
Eh bien voilà, Bertrand, il me reste à vous souhaiter une très très bonne semaine et une très très bonne journée. Alors attention, aujourd'hui, le 1er avril, tout est permis.
Effectivement, alors une très bonne journée et puis à bientôt, bonne semaine.
Merci Bertrand, à bientôt.
Au revoir.
Chansons et mouchoirs en papier.
18 mars, quelques jours après la reprise de Koh-Lanta, Marguerite Leblanc, qui s'était lancée dans cette aventure de l'extrême lors de la 18e saison, était avec nous pour témoigner, alors nous donnant un petit aperçu de ce qu'avaient été ces 39 jours aux îles de Yasava au Fidji. Alors Marguerite nous a expliqué ce qui l'avait poussé à participer à ce challenge, le dépassement de soi, le côté sportif, la découverte d'un endroit sauvage, etc., etc. Mais le temps minuté de l'interview, ne lui a pas laissé la possibilité de nous dire pourquoi elle était partie pour gagner. Alors certains d'entre vous me diront qu'évidemment lorsqu'on joue c'est pour gagner, surtout lorsque le gain du jeu est de 100 000 euros. Marguerite Leblanc, bonjour.
Bonjour.
Alors, n'est-ce pas que vous vouliez gagner, Marguerite ? On peut quand même rappeler que vous avez été la dernière candidate éliminée avant la finale, et qu'en effet, vous auriez pu gagner si vous aviez été un petit peu plus stratégique. Alors, vous vouliez gagner, mais pour une bonne cause.
Tout à fait. Ben, merci de m'accueillir. Donc, je suis restée 39 jours sur 41. Le lendemain, il y avait la course d'orientation et le surlendemain, les poteaux. Donc, en effet, j'ai flirté avec les poteaux. Alors, pourquoi je voulais gagner ? Parce qu'en fait, je voulais offrir cette victoire à Aymeric. Aymeric, c'est un jeune homme maintenant, il a 19 ans, qui est mon filleul. Et Aymeric est porteur d'un handicap mental. Nous avons créé une association pour sa future vie d'adulte avec création d'un lieu de vie. Et donc, je voulais offrir les 100 000 euros à cette association qui s'appelle Accueillir la fragilité. Donc, ça m'a vraiment donné des ailes pour gagner et pendant toute mon aventure, dans les difficultés, dans les moments les plus compliqués, je pensais à ce projet qui avait beaucoup de sens pour moi et du coup, vraiment, je partais pour gagner Koh-Lanta, ça c'est sûr.
Accueillir la fragilité. Alors parlons de cette association, Marguerite. Comment a-t-elle vu le jour ?
Alors donc, Aymeric a maintenant 19 ans, mais il a grandi dans une famille que je connais bien, puisque donc sa maman est ma cousine. Et puis ce petit bout de chou, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait une petite différence. En fait, c'est tout simplement un petit bout du chromosome 22 qui est déficient. Donc, pas de bol, on l'a accompagné pendant toute son enfance en le stimulant ou avec des écoles, etc., un enseignement adapté. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Aymeric, il ne pourra pas faire des études, il ne pourra pas travailler comme n'importe qui peut prétendre à travailler. Il lui faut un lieu de vie adapté. Et donc, ses parents ont l'idée d'un projet fou, c'était de créer un lieu de vie pour des personnes avec un handicap mental. Et donc, c'est un habitat partagé. C'était un projet très long à monter. Ça fait déjà au moins 2 ans qu'on est dans la conception et on a acheté un terrain. On a maintenant déposé un permis de construire. Et les premiers coups de pelleteuse ont justement été donnés la semaine dernière. Donc, c'est un lieu de vie, un habitat pour 6 personnes avec un handicap mental et dans lequel il va donc régner un état d'esprit d'entraide, un état d'esprit de partage, un état d'esprit fraternel, comme une famille, comme une petite famille.
Et alors, qui pourra profiter de ces logements et sous quelles conditions, Marguerite ?
Alors donc, ce seront donc 6 jeunes adultes en situation de handicap. Alors ils ont déjà été retenus puisque là on appelle cette période avant, je dirais dans un an et demi le projet sera fini et habitable. Pour l'instant on est dans les travaux, on commence les travaux et donc on a monté un petit compagnonnage après, je dirais dépôt des candidatures. Et les 6 personnes sont actuellement un peu comme des fiançailles, c'est-à-dire qu'ils font tous les 2 mois des activités pour apprendre à se connaître, à vivre ensemble un petit peu hein, pendant le temps d'une journée. Et donc, à l'issue de ces périodes de compagnonnage, eh bien, ils seront prêts, ils auront déjà créé des liens entre eux pour pouvoir vivre leur vie d'adulte ensemble. Mmh. Voilà, donc ce sont des personnes différentes avec des handicaps plus ou moins importants. Emmerich, par exemple, lui, il est vraiment très dépendant. Il a besoin qu'on l'aide pour s'habiller, pour manger. Il ne parle pas, il n'est pas propre. Voilà, donc une grande dépendance, mais d'autres compagnons sont beaucoup plus autonomes. Donc il y a une mixité au sein de cette petite équipe, de cette petite famille. Et c'est ça qui va être chouette aussi, cette entraide qu'il pourra y avoir entre eux.
Alors justement, il y a Fabienne de Oliveira, créatrice de l'ISRA. L'ISRA, innover, sensibiliser, réagir pour l'avenir de l'autisme. Et elle est dans la même démarche que vous. Et elle nous a expliqué que l'habitat est un bon moyen de développer l'autonomie des personnes atteintes de ce trouble neurodéveloppemental et de favoriser leur intégration sociale. Je pense que c'est important, c'est vrai.
Tout à fait. Bah, l'habitat, il y a énormément d'associations qui se sont mises en place pour aider l'État dans ces projets-là, parce que c'est sûr qu'il en faut beaucoup des places. Hein, donc il y a énormément d'associations qui ont vu le jour et qui sont aidées par l'État, qui leur fait confiance, ce qui est le cas de Accueillir la fragilité. Donc moi, je connais pas très très bien l'ISRA, c'est vrai que mais par contre, hein, je connais très bien l'Arche de Jean Vanier, et c'est il y en a plein, donc des gens qui vont monter des projets avec vraiment cette ce souhait de, en effet, d'accueillir et d'intégrer dans les tissus locaux des personnes différentes, fragiles, et qui vont avoir leur rôle dans les différentes villes ou villages dans lesquels ils seront installés.
Et d'ailleurs, Marguerite, tous ceux et celles en relation avec les personnes, on va dire un petit peu différentes, sont souvent unanimes pour dire qu'elles leur apportent beaucoup et qu'il y a de vrais échanges.
Ah oui, ça c'est sûr que je pense qu'au début, cette différence, le handicap peut faire peur. Tant qu'on ne connaît pas, on est un peu inquiet. Et puis, à partir du moment où on a l'occasion de faire une rencontre, eh bien, on se rend compte qu'avec ces personnes plus fragiles, on va parler pas avec la tête, mais avec le cœur, avec les yeux. Et moi, avec mon petit filleul, je pense que plus je passe du temps avec lui, plus je l'aime. Parce qu'il va créer des liens autour de lui. Parce que quand je suis avec lui, je prends le temps. J'arrête mon suractivité de bouger, je suis disponible, disponible à l'autre. C'est sûr que je pense qu'ils ont, ils créent, toutes ces personnes fragiles et différentes vont créer autour d'eux des liens qui sont des liens, de très très des liens d'amour, hein, des liens d'entraide, de partage. Et c'est ils ont une mission, hein. Ils ont une mission sur Terre parmi nous.
Alors justement, Marguerite, comment peut-on soutenir cette association ?
Alors l'association avec laquelle nous montons ce projet s'appelle Accueillir la fragilité. Donc nous avons un site internet, si vous tapez Accueillir la fragilité, comme ça se prononce, mais donc tout en minuscules et tout attaché sans point, .org. Eh bien, vous allez tomber sur notre site et vous pouvez donc en effet faire un don. Toutes les informations sont sur ce site. Donc, soit vous pouvez faire un virement, soit vous pouvez faire un don par courrier à l'adresse qui est sur le site, ou bien même faire un don en ligne via une plateforme de crowdfunding. Donc là, c'est vous cliquez sur le lien et vous avez possibilité de faire un don directement. Ce serait super, parce que nous n'avons pas tout à fait bouclé notre budget, et c'est clair que même un petit don sera utile et sera très bien utilisé.
Eh bien, alors en tout cas, Marguerite Leblanc, merci. Alors, bien sûr, on voudrait bien que ce genre d'association n'ait pas lieu d'être. Hein. Malheureusement, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de personnes touchées en France, et puis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, c'est vrai que la France reste quelquefois très en retard dans les diagnostics, mais aussi dans l'accompagnement de ces personnes-là. Et donc, c'est à nous aussi de faire quelque chose. En tout cas, Marguerite Leblanc, merci.
Ben merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite Voilà, une belle journée de printemps.
Et une très, très bonne semaine. Très bonne journée à vous et très, très bonne semaine. Et vous, je sais que vous êtes une personne très, très active. Merci, Marguerite.
Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Merci.
Calogero, et nous avons tous nos différences. C'est dans la différence que se cultive l'intelligence. Je vous souhaite une très très bonne matinée que vous pouvez poursuivre avec moi, puisque tout de suite après la pub, ce sera Kaléidoscope avec sa musique, ses chansons pour vous faire passer un agréable moment. À tout de suite.